Et eux, il est 10h.
RVE aux Essarts-le-Roi, 103.7.
RVE, la différence, 103.7.
Voilà,
et ben on va enchaîner donc la deuxième partie de cette émission Tribune Foot maintenant avec, je l'ai dit pour la centième, un invité exceptionnel, la personne de, allez, j'allais dire notre confrère, chef d'entreprise homme politique, Karl Olive. Karl, on va maintenant commenter un peu plus une riche actualité football. Ça tombe bien parce qu'on a Juliette Rouvel, des amis du Paris Saint-Germain. Je suppose qu'en bon supporter du PSG que vous êtes, vous connaissez les amis du Paris Saint-Germain, c'était le premier club des supporters avec Guy Adam à l'époque.
Ouais, exactement, ouais. Et puis moi, je connais très bien également Guy Adam, à qui on peut penser, parce que aujourd'hui, Guy l'a retrouvé, il a un petit peu retombé sur ses pattes après une période de disette de nombreuses années au sein du Paris Saint-Germain. Il est maintenant dans le Gard, du côté d'Uzès, et ça se passe très bien pour lui. Et voilà, il est très heureux. Mais c'est vrai que Guy était une vraie belle locomotive du PSG et des amis du Paris Saint-Germain. Il a longtemps été coordinateur sportif et il a fait un très beau boulot. Et c'est à l'époque où, effectivement, et je suis heureux que nos amis nous aient retrouvés, Philippe, parce que c'est à l'époque où les supporters ou les amis du PSG ou les anciens du PSG avaient une vraie belle part au sein du club. C'est un petit peu plus compliqué maintenant.
Oui, on était bien. Michel Dumont, le président, donc la semaine dernière avant le match au PSG Auxerre, on passera Juliette cette interview la semaine prochaine. Voilà. Alors, Paris Saint-Germain, actuellement, vous avez connu la grande époque, Karl, vous n'êtes pas un peu malheureux quand même de ce manque de moyens du PSG actuellement qui fait qu'elle ne peut pas jouer les tout premiers rôles?
Non, je suis pas malheureux du manque de moyens du Paris Saint-Germain. D'abord, je suis très heureux que le Paris Saint-Germain ait confié les rênes de son équipe à Antoine Comboiré, parce que je crois vraiment, voilà, en Antonio comme. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes identifiées, et on parlait tout à l'heure de la nécessaire volonté de rigueur, de compétitivité, de discipline. Et je crois qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a besoin, voilà, de remettre un petit peu tout cela en place. Alors, ça prend du temps. C'est vrai que les moyens sont pas forcément à la hauteur d'un club comme Lyon, d'un club comme Bordeaux aujourd'hui, mais enfin bon, donnons-nous le temps au temps. On n'a jamais laissé les gens travailler sur la longueur au PSG. C'est tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. Laissons le temps aux gens à s'installer, laissons au président à faire les choses, laissons à son entraîneur à se mettre en place. On peut tout dire, mais certainement pas qu'Antoine Comboiré n'est pas identifié au Paris Saint-Germain, n'est pas un homme du club. Moi, je crois en Antoine, je crois aux valeurs du Paris Saint-Germain aujourd'hui, et je crois que ça va sourire, contrairement à ce que beaucoup disent.
Et justement, donc, on peut peut-être penser à un mercato cet hiver. Alors, on va recruter un peu, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un potentiel offensif un peu limité à Paris, vraiment.
Je pense d'abord que si jamais il y a du recrutement avec une masse salariale, on sait qu'il est quand même encadré et contrôlé, comme l'on dit dans les milieux avertis, ce sera, à mon sens, pas au niveau du domaine offensif.
Ah bon ?
Après, est-ce qu'il le faut ? Est-ce qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain a l'ambition d'être en Ligue des Champions raisonnablement, j'en suis pas convaincu. Est-ce qu'il faut pas passer peut-être par l'Europe la saison prochaine, faire une bonne campagne en Coupe de France, en Coupe de la Ligue? Je crois qu'aujourd'hui on a besoin, et amis ne diront pas le contraire, eh bien de rendre du bonheur et du plaisir aux supporters. Il faut pas se moquer des supporters. Il faut pas leur dire, on parlait politique tout à l'heure, il faut pas leur dire on va être champion. C'est pas vrai. Il faut pas leur dire ça. Il faut leur dire on va essayer de faire la meilleure saison possible. Si on peut être en Coupe d'Europe, eh bien ce sera une belle récompense, ce sera notre cadeau pour vous. Et ensuite, tranquillement, de l'Europa League, on passera peut-être à la Ligue des Champions avec d'autres moyens, parce que l'appétit vient en mangeant. Mais il ne faut pas croire qu'on va retrouver les 7 titres de Deniso en claquant d'un doigt sous prétexte que le PSG est le club de la capitale, etc. C'est pas vrai. Il faut arrêter de dire des mensonges aux gens, parce que c'est pas les respecter.
Une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, c'est peut-être plus dans les cordes.
Oui, c'est plus dans les cordes, mais surtout, c'est qu'on a besoin de Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que si demain vous remportez une Coupe de France, vous serez heureux, parce que ça donne du bonheur, Philippe, la Coupe de France. Un peu moins la Coupe de la Ligue, qui est beaucoup plus lucrative
qui est controversée en plus.
Voilà, un petit peu controversée. Ouais. Mais remporter une Coupe de France, ce n'est pas rien. Donc faut pas banaliser ce type de compétition. Et je peux vous dire que si en mai prochain, le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France, ça va faire parler, ça va faire du bruit, et on aura été contents de cette saison.
Alors tiens, on va passer le micro à Juliette Trouvel, des amis du Paris Saint-Germain. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Alors, Karl Olive.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec lui, hein, parce que effectivement, au PSG, bon, c'est vrai qu'on a des difficultés à grimper pour accéder au podium, mais quelque part Paris c'est une équipe de coupe, hein, et beaucoup de coupes. On l'a vu, pour prendre une petite référence, bon, c'est vrai, regardez, Marseille depuis 17 ans n'a rien gagné, ouais. Et en 17 ans, Paris a gagné 10 coupes. et Coupe de la Ligue ou Coupe de France. Alors quelque part, on a quand même un potentiel et que, bon, faut attendre, faut laisser le temps, parce que avec Comboiré, on sait très bien qu'il a l'amour du club, ça il faut pas non plus l'oublier. Et quelque part, bon, après, les joueurs pourront se mettre un petit peu en marche pour accéder à quelque chose l'année prochaine, comme l'Europa League.
Est-ce que dit Karl, hein, ne pas tromper les supporters, vous adhérez amplement, largement. Ne pas tromper les supporters.
Ah oui, moi personnellement, je sais qu'on... Bon, je le dis, on va essayer d'être champion, c'est vrai. Ouais. Mais bon, on sait qu'on ne le sera pas. Si on a la 4e ou la 5e place, ce sera une très 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 belle chose, quoi.
Karl, le niveau actuel de la Ligue 1, vous en pensez quoi sur ce championnat version 2009-2010? Bordeaux est pour l'instant la meilleure équipe? Celle qui pratique le plus beau jeu, qui est la plus complète?
Alors Bordeaux est l'équipe la plus régulière, celle qui pratique le plus beau jeu peut-être. Je vous rejoins, Philippe, parce que quand vous avez des joueurs de la qualité de Wendel, de la qualité de Gourcuff, de l'efficacité de Chamac de l'efficacité retrouvée de Bordeaux qui a inscrit deux buts, ses deux premiers buts de la saison la semaine passée. Oui, pourquoi? Parce que quand vous avez un joueur comme Gourcuff qui est capable de vous donner de bons ballons, qui est un métronome, qui a de la justesse dans la transmission, parce que ça aujourd'hui, ça qui manque en tout cas dans le football, c'est qu'on n'a pas de meneur de jeu, on n'a pas de vrai numéro 10 capable de donner le ballon, vous savez, le ballon propre, précis, voilà, où l'avancante n'a pas à faire 10 appels ou n'a pas à prendre 10 bouillons comme on dit pour les avertis. On a besoin de retrouver des Platini ou des Zidane, voilà, c'est ça. Et je pense que Gourcuff a cette trempe là et c'est pas pour rien qu'au niveau de Bordeaux cette année ça fonctionne et ça sourit comme ça souriait à l'époque du grand Juninho du côté de Lyon, ou d'un grand Rai, voilà, ou d'un grand Djorkaeff du côté du Paris Saint-Germain il y a quelques années maintenant. Alors oui, il y a du beau jeu du côté de Bordeaux. Pour continuer sur la question que vous me posiez sur le niveau, je suis pas étonné du niveau de Ligue 1. On a le niveau qu'on mérite. Et là, on va entrer après dans un problème de fiscalité. Il faut quand même pas se voiler la face. Le droit individuel d'image collectif, pardonnez-moi, mais c'est une connerie de le supprimer pour ces joueurs-là. Parce que qu'est-ce qui va se passer?
Vous êtes prêt à lutter, à vous investir?
Parce que là, on parle de la cerise sur le gâteau. On parle de la cerise de ces joueurs qui gagnent beaucoup d'argent. Oui, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais les supporters qui viennent, ils veulent voir du spectacle. Pour voir du spectacle, quand vous allez voir Charles Aznavour au Palais des Congrès, vous mettez, vous investissez 100 ou 150 euros. Quand vous allez voir un jeune premier, eh ben c'est pas le même prix. Eh ben pour moi, dans le spectacle, voilà, le spectacle, c'est cela. Et où c'est dangereux d'avoir, pour moi, supprimé, alors là, on sursit à sa fin exécutoire. Mais où c'est dangereux, c'est qu'au niveau de la formation, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui en France? Eh bien, les jeunes qui sont en formation dans notre pays, ils vont filer en Angleterre, ils vont filer en Allemagne, ils vont filer en Espagne, parce que là-bas, ils vont être aussi formés, et en plus, ils vont avoir une fiscalité qui va être moindre. Et c'est vrai que quand vous proposez à quelqu'un 300 euros, ou 300 euros net, ou alors 300 euros, entre guillemets, brut, avec un certain nombre de confiscations sociales et patronales, bah, la fiscalité, c'est quelque chose... Il faut vraiment qu'on planche dessus, mais de façon très sérieuse, et qu'on ait une homogénéité européenne. Sinon, alors là, le haut niveau et la haute compétition en France et les représentants en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, on n'en aura plus. Mais ce qui m'inquiète plus, Philippe, c'est qu'au niveau de la formation, où on dit que c'est la meilleure formation à la française, et ben petit à petit, elle va partir. Mais ça, c'est un danger.
Et puis, il y a des clubs qui peuvent être en péril aussi.
Alors les clubs qui peuvent être en péril, je pense qu'on vient sur un autre sujet, c'est que les clubs sont en péril quand les présidents sont en péril. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'on a aujourd'hui aussi des présidents qui découvrent d'abord le football, qui découvrent ensuite les médias, donc ils s'enflamment. Voilà. Le football aujourd'hui, les clubs, Philippe, c'est une entreprise. Il faut gérer un club de football comme une entreprise, et pas seulement les clubs professionnels. On parle avec nos amis du Paris Saint-Germain, je le disais tout à l'heure, la section amateur, c'est presque 1000 licenciés au Paris Saint-Germain. Et bien une section amateur, quand vous avez 1000 licenciés et une association, c'est comme une entreprise, ça se gère comme une entreprise. Et là, on parle de centaines de milliers d'euros, mais quand on est en Ligue 2, en Ligue 1, c'est des millions d'euros. Donc à partir de là, il faut spécialiser les rôles. On ne peut pas avoir un président qui soit entraîneur et un entraîneur qui soit président. Il faut qu'on ait un président qui soit chef d'entreprise et qui délègue. On dit le pouvoir ne se partage pas, il se délègue. Il faut que ce soit le cas. Et aujourd'hui, regardez les clubs qui sont en péril, c'est pour moi d'abord des présidents qui s'enflamment. Et on va dépenser 100 euros quand on en a que 10 dans la poche. Et on pense que ces gens-là, on va leur faire des Copperfield. Eh ben non, il n'y en a qu'un Copperfield qui sait faire de la magie.
des clubs comme Auxerre, comme Montpellier, comme Lorient, c'est bien qu'ils soient dans les premières places du championnat.
Un peu, mon neveu.
Ouais.
Bien sûr que c'est bien. Dans la mesure où, voilà, Lorient, ce sont des bastions de formation. Auxerre, bastion de formation. À Montpellier, on a mis quelqu'un qui s'appelle René Girard.
Ouais.
Mais René Girard, c'est un technicien hors pair. Il fait partie justement de ces forces vives de la formation en France. Il a été viré comme un malpropre à l'époque où il était en équipe de France Espoir. Et c'est pas normal. Et je suis très heureux pour lui qu'il ait rebondi à Montpellier. Parce qu'il est récompensé de tout le travail, de toute l'épargne, de tout, voilà, tout ce qu'il a semé. Montpellier le récolte au travers de René Girard. Et ça, c'est exceptionnel. Ça signifie quoi, tout simplement? Ça signifie que quand on est dans l'expertise, quand on est dans la spécialisation des rôles et dans l'ultra-compétence, ça porte ses fruits. C'est pas toujours l'argent qui fait le bonheur. On le voit. Auxerre, c'est pas le plus gros budget. Ils ont longtemps été en tête. Lorient, dont on disait que cette année, c'était la bonne pour descendre en Ligue 2. Regardez où ils sont. Parce que le technicien Gourcuff Père fait un travail admirable. C'est d'abord le jeu et ensuite les finances qui viennent instaurer cela. Alors, ce qui fonctionne en France, voilà, on est au niveau de la France. Après, on peut se poser la question de savoir pourquoi Auxerre est en tête, Lorient n'est pas loin, que Montpellier troisième aujourd'hui, etc., etc. Vous allez en Angleterre, vous allez en Espagne, c'est souvent les gros cadors qui sont en tête du championnat. Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal.
Donc, si je comprends bien, on va être encore très limité cette année aux Coupes d'Europe. On va arriver au deuxième tour, Bordeaux-Lyon, et après... Au final, ça va être notre véritable niveau. Ou alors, cette année, il y a quand même une équipe qui est capable d'aller un peu plus loin.
Alors, c'est pas une science de football, sinon ça serait, Philippe.
Ouais, ouais.
On peut toujours penser que ça puisse sourire. Je pense que... Après, c'est aussi les circonstances. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des adversaires qui réussissent plus ou moins au club français. Je m'aperçois que Lyon, lorsqu'il tombe contre un club italien, passer les phases de poule, c'est plus compliqué.
Ouais.
En revanche, effectivement, sur un match, ça peut sourire. Sur un aller-retour, ça peut sourire. Il faut que l'aller ait lieu à l'extérieur. Et puis que le retour soit à la maison, entre guillemets, pour que les supporters en puissent en profiter. Et puis, devenir le 12e homme de l'équipe. Je pense que Bordeaux est peut-être plus armé aujourd'hui parce qu'encore une fois, il y a un métronome et on a de la justesse dans la précision. Ce qui me fait dire que Lyon peut s'en sortir sur des exploits, sur des coups, voilà, des coups, un Bastos, un coup franc de Bastos, un exploit de Lisandro en attaque, mais ça me paraît moins musclé qu'auparavant et Bordeaux, c'est peut-être le cru cette année.
Ouais, peut-être la maturité bordelaise qui va enfin arriver.
Vous savez, quand vous avez été champion de France et que vous avez l'impression de marcher sur l'eau dans les compétitions européennes, c'est sûr que ça vous galvanise, ça vous donne des ailes. Donc il ne faudra pas mésestimer effectivement la capacité de Bordeaux à se transcender encore plus cette année parce que tous les signaux sont au vert. Et encore une fois, je vais revenir à ce que je disais, mais c'est une litote. Laurent Blanc, il est champion du monde, il est ultra compétent, il a fait sa formation à Clairefontaine. Bon, voilà.
Ouais, puis c'est une icône. Quand on est entraîneur, qu'on s'appelle Laurent Blanc, on est fatalement une icône pour ses joueurs. On est respecté, on regarde autrement.
Un grand joueur, Philippe, ne fait pas forcément un grand entraîneur. En revanche, comme j'aime à le dire, un grand joueur compétent, intelligent, fait souvent un entraîneur qui va beaucoup plus vite que les autres. Voilà.
Ouais. Ouais, mais enfin, quand on est Laurent Blanc, qu'on parle dans les vestiaires, on est peut-être un peu plus écouté que...
Oui, mais Antoine Comboiré est très écouté, Didier Deschamps est très écouté, René Girard est très écouté. Donc derrière, il y a aussi, encore une fois, voilà, la capacité de chacun à faire en sorte que le palmarès, que la manière d'approcher, d'appréhender le métier, fasse que ça se traduise sur le terrain comme on l'entend. Et là, ça a l'air de bien se produire du côté de Bordeaux. J'oublie pas Claude Puel, hein, qui est un super entraîneur également. Ça se produit aussi du côté de Lyon, parce que Lyon aujourd'hui est quand même dans les trois premiers très régulièrement, et c'est quand même exceptionnel. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même exceptionnel.
Alors, on parlera de l'équipe de France en deuxième partie, et on va simplement parler, malheureusement, de l'arbitrage. Là, vous avez été arbitre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à dénombrer de très nombreuses erreurs d'arbitrage. Est-ce que le plus grand ennemi de l'arbitre, c'est pas la télé?
Je vais vous dire d'abord, on dénombre de plus en plus d'erreurs d'arbitrage. Je vais vous dire,
Donc on en parle plus qu'avant. Quoi.
Voilà, 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 c'est ça l'histoire, parce que il n'y a pas plus d'erreurs d'arbitrage qu'avant. Je pense même qu'il y en a beaucoup moins, parce que les arbitres sont de plus en plus professionnels et très compétents. Ça, faut quand même leur rendre hommage. Jean Verbeek, qui est un Yvelinois, qui a longtemps été président de la Ligue de football de Paris et vice-président de la Fédération française de football, avait trouvé un bon leitmotiv pour les arbitres. L'arbitre fait partie du jeu. À partir de là, il a le droit de se tromper. Alors, un arbitre, il a le droit de se tromper. Voilà. L'arbitre du match entre l'équipe de France et l'équipe d'Irlande, il a fait un super match. Il a fait un super match. Malheureusement, il n'a pas vu cette main. Mais il a fait un
Personne
super match.
Personne n'a vu au stade, hein, de toute façon.
Bah, il y en a peu qui l'ont vu, effectivement, au stade. Alors, c'est pas la faute de l'arbitre. Il ne faut pas incriminer non plus Thierry Henry, parce qu'on est tous footballeurs autour de cette table. On est dans l'antre de Festifoot ici. Et il y a beaucoup de footballeurs qui jouent actuellement sous nos yeux. On aurait fait cette main, c'est un réflexe. Voilà. Ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'effectivement, à ce stade de la compétition, il n'y ait pas suffisamment de moyens pour faire en sorte que si l'assistant, si l'arbitre au milieu du terrain ne la voit pas, que quelqu'un la voit. Voilà, ça c'est plus ennuyeux. C'est juste ça qui est ennuyeux. Alors derrière, est-ce qu'on met deux arbitres? Moi je serais partisan par exemple de mettre effectivement, comme Michel Platini souhaite, des arbitres plutôt que de la vidéo. Pourquoi?
On dit jugement à l'arbitre quoi.
Jugement à l'arbitre.
Voilà.
Bah, d'abord ça, on reste dans l'humanité du sport. Et deuxièmement, il y a eu un France-Samoa rugby 3 jours après le match France-Irlande. Il y a la vidéo dans le rugby.
Ouais,
et ben j'ai regardé. Il y a eu un essai.
On peut pas voir.
Il y a eu la vidéo.
Ah ouais.
Il s'est passé 2 minutes avant que l'arbitre ne valide l'essai.
Mm-hmm.
Faites 2 minutes au niveau du football. Plus 2 minutes. Les matchs, ils vont faire combien? Ils vont faire 1h15.
Oui, en plus. Ouais.
Et donc ça me paraît un petit peu compliqué. Le fait de mettre un arbitre, un nouvel arbitre derrière le but, derrière chacun des buts, d'abord vous donnez du boulot, ce qui est quand même pas rien. Et deuxièmement, vous avez la possibilité quand même largement de diminuer ces fautes au niveau de l'arbitrage. Après, c'est vrai que la panacée, c'est la vidéo. Mais la vidéo, pourquoi? Simplement pour l'équipe Fagnon. Et l'équipe qui joue en CFA, l'équipe qui joue en CFA 2, qu'est-ce qu'elles vont dire? Bah, on n'est pas traité à la même enseigne. Et je pense que c'est là le message de Michel Platini.
Effectivement, il y aura un décalage entre le football amateur et le football pro au niveau de l'arbitrage. On va marquer une petite pause de pub, hein, parce qu'on fait qu'il faut passer la pub, Karl, et puis on se retrouve naturellement à Festifoot pour la deuxième partie de cette émission Tribune Foot, et puis on aura aussi avec Pierre eh bien, les résultats de la 16e journée du championnat de Ligue 1. Allez, la pub auparavant.
RVE, le plaisir d'écouter la différence.
Dynamicprod.com. Production spécialisée dans l'audio, la vidéo, la photo et l'événementiel. Audio. Avec enregistrement studio professionnel ou pour créer vos jingles DJ, radio ou événementiel. Vidéo. Avec création de clips musical, clips publicitaires entreprises ou clips événementiels. Photo. Avec son studio photo professionnel pour la création de votre book photo personnalisé. Événementiel. Avec sa disco mobile pour toutes vos animations privées ou publiques. Dynamic Prod, c'est sur le www.dynamicprod.com. DynamicProd.com. Prenez le contrôle. Crêperie Saladerie, le Tibi League. 13 place Félix Faure à Rambouillet, toutes les spécialités bretonnes près de chez vous. Ses variétés de galettes de sarrasin et ses crêpes de froment, son assortiment de salades et de glaces. Venez passer un moment sympa et de détente autour d'un bon repas. Le Tibi League, 13 place Félix Faure à Rambouillet, 01 30 46 23 11. Pour les beaux jours, le Tibi League, c'est aussi sa superbe terrasse d'été. Fermeture le dimanche et le lundi toute la journée. Ressourcez-vous à la piscine communautaire des Fontaines. Profitez pleinement des multiples activités que vous offre l'établissement. Côté sport et bien-être, natation, remise en forme et sauna scandinave. Côté loisirs, nocturne musicale et jardin ludique pour les parents et leurs jeunes enfants. Seul, en famille ou entre amis, la piscine des Fontaines, c'est un cocktail d'évasion pour un maximum de détente. La piscine communautaire des Fontaines, au 01 30 41 13 38.
Météo. Bonjour, le temps pour ce matin selon les informations de Météo France, eh bien un ciel nuageux avec quelques averses, de la pluie éparse. Les températures sont aux alentours de 10 degrés dans l'après-midi, les températures monteront à 12 degrés et le temps restera couvert avec de nombreuses averses.
Retrouvez la prévision météo
sur le serveur de Météo France au 3250.
Horoscope. Horoscope.
Bonjour, nous sommes le 6 décembre, voyons ce que les astres nous réservent pour aujourd'hui. Les béliers, vous êtes à l'affût d'une affaire qui pourrait vous rapporter gros. Les taureaux, votre opinion très personnelle sur un sujet épineux pourrait choquer une personne sensible. Les gémeaux, n'hésitez pas à utiliser votre pouvoir de persuasion pour obtenir ce que vous voulez, même s'il s'agit d'une personne importante. Les cancers, c'est le moment idéal pour demander une faveur car on sera à votre égard dans de bonnes dispositions. Les lions, vous pensez sans doute à tort que vous possédez une grande influence sur quelqu'un de très important pour vous. Les vierges, vous allez devoir faire face pour résister à une intrusion dans votre vie. Vous vous en tirerez par une pirouette. Les balances, il y a des moments dans la vie où il faut faire des choix, et c'est aujourd'hui le cas. Les scorpions, nul doute que vous parviendrez relativement facilement à vous imposer malgré les réticences répétées de quelqu'un qui pourtant vous aime bien. Les sagittaires, le moral aidant, vous arrivez à convaincre de vos capacités à gérer une situation qui se présentait plutôt mal que bien. Les capricornes, de réelles possibilités se présentent à vous aujourd'hui, ce n'est pas le moment de reculer. Les verseaux, les forces de la chance vous apporte une énergie nouvelle qui vous propulse vers une certaine réussite. Les poissons, des contrariétés auraient pu survenir dans votre environnement proche, mais une réelle opportunité viendra perturber une personne qui cherche à vous nuire. Sur ce, les astres vous souhaitent une excellente journée.
Éphéméride sur RVE. Les éphémérides vous sont présentés par le San Lazzaro, restaurant italien à Rambouillet.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 6 décembre et c'est la Saint-Nicolas. Très bonne fête à vous. La citation du jour est de Victor Hugo, l'instinct c'est l'âme à quatre pattes, la pensée c'est l'esprit debout. Ça s'est passé un 6 décembre. En 1986, une manifestation étudiante rassemblant près de 30 000 personnes dégénère en affrontements violents dans le quartier latin de Paris. Les émeutes font un mort et des dizaines de blessés. En 1998, des astronautes réussissent à assembler en orbite les deux premiers éléments de la future station spatiale internationale, l'ISS. Et en 1998 également, le sculpteur César, de son vrai nom César Baldaccini, célèbre pour ses compressions, est décédé des suites d'un cancer à 77 ans. Né le 1er janvier 1921 à Marseille, il était notamment le concepteur des statuettes remises depuis 1976 à la cérémonie des Césars, récompense cinématographique suprême en France, équivalente des Oscars aux États-Unis. On passe aux anniversaires maintenant. Si c'est le vôtre aujourd'hui, je vous souhaite un très très bon anniversaire. En 1929, c'est la naissance de Philippe Bouvard. En 1956, la naissance de Peter Buck, le guitariste de REM. Et en 1958, la naissance de Nick Park, réalisateur de films d'animation et créateur de Wallace et Gromit. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.
Bonne fête à tous avec le 120 Zaro.
La radio de la différence.
Effectivement, la radio de la différence, elle est toujours qu'avec depuis Festifoot avec notre invité exceptionnel Pierre Olive. Je crois qu'on a Pierre au téléphone qui va pouvoir, eh bien, avant même, hein, Téléfoot n'est pas encore commencé, donc donner les résultats de la soirée de Ligue 1. C'était la 16e journée. Pierre, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors, les résultats de cette soirée donc de Ligue 1 avec donc la défaite de Paris Saint-Germain hier à Bordeaux, 1-0.
Oui, on commence les résultats par la victoire 1-0 de Bordeaux face au PSG. Les hommes de Laurent Blanc se sont fait peur contre une bonne équipe du PSG, mais ont fait assurer le travail en obtenant les 3 points hier soir. Marseille se reprend après sa défaite à Lens et s'impose 3-1 à Nice dans un derby très houleux. Valenciennes aussi l'emporte 3-1 contre Monaco. Rennes sort gagnant 1-0 du derby breton contre Lorient. Montpellier gagne 2-1 à domicile face au Mans. Et Saint-Etienne, piétine encore en concédant le match nul 0-0. Contre Sochaux à Geoffroy Guichard. Ce qui donne au classement avant les 4 matchs d'aujourd'hui qui opposeront Auxerre à Nancy, Grenoble à Toulouse, Boulogne-sur-Mer à Lens et Lille-Lyon. Bordeaux est seul en tête avec 31 points, suivent Montpellier 27 points et Valenciennes 26 points. Marseille est 7e avec un match en moins et Paris 9e. Les 3 relégables sont Le Mans, Boulogne-sur-Mer et Grenoble.
Alors match important, hein, Pierre, pour Marseille, quelques jours avant donc son match de Ligue des Champions, ô combien décisif contre le Real.
Oui, les hommes de Didier Deschamps hier soir ont assuré le travail en s'imposant à l'extérieur 3-1 à Nice et se sont surtout repris après leur défaite à Lens. Ils ont rattraper le terrain perdu face à Lens et donc pas laisser s'échapper Bordeaux en tête, même si c'est un peu le cas, mais ils ont encore le match qui leur reste en moins face à Sochaux, donc ils sont virtuellement, s'ils gagnent le match contre Sochaux, à 3 points du leader. Donc hier, les hommes de Didier Deschamps ont assuré le travail dans une ambiance très chaude à Nice.
Saint-Etienne-Sochaux 0-0, ça s'arrange pas pour les Verts.
ça s'arrange toujours pas pour les Verts qui malgré une bonne équipe et des très bons joueurs piétinent et surtout à domicile qui ils n'arrivent pas à développer du jeu, ils n'arrivent pas à mettre des buts. Ça devient difficile pour Saint-Etienne qui déjà la semaine dernière devait gagner au Mans, mais avec des erreurs d'arbitrage n'arrive pas à l'emporter. Donc c'est vrai que ça devient difficile pour les Verts.
Alors un petit mot sur la défaite du PSG à Bordeaux, 1-0. On était au parc la semaine dernière pour voir donc la victoire contre Auxerre sur le même score de 1-0. Que peut-on tirer de cette défaite du PSG, Pierre?
Bah, je pense que en voyant les images et le match, il y avait plus d'envie hier soir que contre Auxerre et donc le résultat n'est pas le même. Bordeaux est une grande équipe. Bordeaux a su bien joué et donc marqué, mais c'est surtout Paris qui a fait peur aux Bordelais, avec l'entrée notamment de Jean-Edouard Maurice qui a remplacé Melvin Harding blessé la première mi-temps. Il a percé les défenses bordelaises, a fait peur à Bordeaux et Paris a montré du jeu, a développé, mais ça n'a pas suffi pour marquer et pour obtenir au moins un point au Stade Chabon-Delmas hier soir.
Les matchs de ce jour, donc Lille-Lyon, c'est un match piège pour les Lyonnais?
C'est un match piège par excellence, malgré Lille qui n'est pas à sa place. Lille est toujours une équipe redoutable à domicile, avec certains joueurs pétris de talent, que je pense à Johan Cabaye ou encore à Florent Balmont. C'est vrai que Lyon, qui n'est pas dans une bonne passe actuellement, qui piétine en championnat, va jouer à Lille, c'est toujours un match difficile et il va falloir faire boulot et espérer obtenir 3 points pour les Lyonnais pour encore rester dans le bon wagon.
Un petit mot sur les matchs de l'Europa League de cette semaine, Pierre, parce qu'on fait toujours un petit contour de l'actualité foot de la semaine. Donc Lille qui a été nettement et logiquement battue à Valence 3-1, mais Lille qui est donc en ballotage probable pour donc poursuivre l'aventure en Europa League. Hein.
Exactement, Lille qui est tombée sur une équipe bien plus forte qu'elle, hein. Valence, c'est une équipe qui est digne quand même de la Ligue des Champions, avec des joueurs d'exception tels David Villa et David Silva, même s'ils n'étaient pas là jeudi, mercredi soir. Mais bon, il y avait une classe d'écart, on l'a bien vu, hein. Les Lillois ont appris un but dès la deuxième minute, et après les Valenciens ont déroulé et sont imposés 3-1 avec un but d'Aurélien Tchadjou, le Lillois, en fin de match. Mais c'est vrai que Lille est en balatoche favorable puisqu'ils reçoivent le Slavia Prague pour la dernière journée. Et s'ils s'imposent ou même font match nul, ils devraient tout normalement aller en 16e de finale de la Ligue Europa.
Et Toulouse qui a gagné 1-0 devant le Partizan de Belgrade, mais Toulouse qui est quand même condamné à l'exploit du côté de Bruges.
Exactement, Toulouse qui a concédé des défaites, notamment contre le Shakhtar Donetsk, l'épouvantail de ce groupe cinglante 4-0, on se rappelle. Maintenant, contre Partizan Belgrade, Toulouse a fait le boulot. Et maintenant, voilà, ils vont devoir aller à Bruges, en Belgique, essayer de faire l'exploit, ce qui est tout à fait dans les cordes des hommes d'Alain Casanova.
Un petit mot, ensuite on rentrera plus largement dans le vif du sujet avec Carl-Louis, mais un petit mot sur le tirage au sort du mondial.
Écoutez, je crois que la France a eu beaucoup de chance lors de ce tirage au sort. Hein. On avait peur avec l'annonce de mercredi du fait de ne plus être tête de série. Du coup, je pense que si on aurait été tête de série, on aurait peut-être eu un groupe encore un peu moins bon. Parce que là, on tombe quand même sur la tête de série la moins forte, hein, l'Afrique du Sud, et puis le Mexique et l'Uruguay, c'est vraiment prenable. Donc je pense qu'on a vraiment de la chance et que c'est vrai qu'il ne faudra pas faire de faux pas, parce que c'est des équipes qui peuvent mettre le doute contre la France. On sait très bien que contre les petites équipes, la France a plus de mal que contre les grosses. Mais je pense qu'il vaut mieux être dans ce groupe-là que dans le groupe du Portugal, par exemple, qui est dans le groupe du Brésil et de la Côte d'Ivoire.
Un petit mot aussi sur le ballon d'or de Lionel Messi, hein, c'est logique, c'est amplement mérité.
On le savait tous, hein, mais Lionel Messi qui a contribué largement aux 3 titres du FC Barcelone, Ligue des Champions, Championnat et Coupe du Roi. Ça fait depuis au moins 15 ans, 10 ans qu'il n'y avait pas eu autant d'écart en tête de ce classement du Ballon d'Or. Lionel Messi qui devance Cristiano Ronaldo d'à peu près 150-200 points, je crois. Donc c'est amplement mérité pour l'Argentin et j'espère que ça ne sera pas le dernier, puisque c'est un joueur quand même d'exception.
Très bien, merci Pierre, rendez-vous donc la semaine prochaine, le championnat et puis
les champions.
Voilà,
voilà. Merci, en tout cas, Philippe, au revoir.
Merci, voilà. Allez, on va continuer avec Karl. Eh oui, on a des jeunes journalistes, Karl, qui font aussi leurs premières armes.
Mais c'est super, c'est, voilà. Ça, c'est top. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, parce que c'est une belle expérience. Et puis, on est très heureux de se retrouver ici à FestiFoot, parce que c'est vraiment un bel endroit.
Bah, c'est sympa. Alors, on va continuer à commenter l'actualité foot. Lionel Messi, largement vainqueur, Ballon d'Or, c'est pas une surprise?
Ah non, c'est pas une surprise. Bon, en plus, quand vous avez été champion d'Europe, on connaît le palmarès de LPB de Oro. C'est presque c'est le fils spirituel, en tout cas dans ce qu'on peut en voir de Diego Maradona. Et puis ça nous donne un petit peu de peps, voilà, ça donne de la fraîcheur, je trouve au football mondial d'ailleurs. Et ça prouve aussi au foot encore, il n'y a pas besoin de faire 1m80 ou 1m90 pour avoir les moyens de ses ambitions. Bravo Messi.
En tout cas, c'est un véritable plébiscite, hein. 473 points pour Messi, 233 pour Ronaldo et 170 pour Xavi. Thierry Henry est 15e. Donc véritable, rarement quelqu'un a gagné aussi.
Ah oui, bah, de toute façon, il est effectivement au-dessus du lot, et ça fait d'autant plus plaisir. Et c'est un joueur en plus qui est très charismatique, ouais. Parce que à l'image d'un Zidane, il n'est pas exubérant. Ouais. Voilà, il est focalisé sur son jeu. Il respire le bonheur. C'est encore un gamin, il est tout jeune, hein. Mm-hmm. Donc il y a encore de beaux jours devant lui. Et ça fait vraiment plaisir, parce que là, on va avoir du beau spectacle, y compris pendant la Coupe du Monde, grâce à Messi et l'Argentine.
Les Français sont à leur place, Karl, sur ce Ballon d'Or France Football. Henri, 15e.
Ouais, honnêtement, on peut pas espérer grand chose actuellement, Philippe, parce qu'on le sait, hein, France Football, qu'on a souvent retransmis à Canal+, en fait, si vous êtes champion du monde, si vous êtes champion d'Europe, en général, il faut aller chercher le joueur Ballon d'Or dans ces deux équipes-là. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Hein. Et après, c'est un Thierry Henry, il a pas non plus fait la super saison qui était la sienne. Alors ça n'a rien à voir avec le classement, puisqu'il a été effectué avant, mais bon, 15e, c'est pas mal quand même pour City.
Bien sûr. Allez, on va rentrer maintenant sur la Coupe du Monde, hein. Les tirages au sort. Alors, c'est vrai qu'on a un tirage très favorable. Karl.
Il n'y a pas de tirage très favorable. Il y a un tirage. Simplement, on peut dire que. On est finalement assez satisfait, voilà. Que l'équipe de France n'ait pas été tête de série finalement. Pourquoi? Parce que on tire le Mexique, qui est pas un foudre de guerre, mais attention, parce que l'équipe mexicaine a montré sa solidité défensive pendant les éliminatoires. C'est une équipe qui est également passée par les barrages, et on peut dire aussi que le Mexique aura un petit avantage, c'est que le Mexique, vous le savez, s'entraîne en altitude. Là-bas, notamment à Guadalajara, et on jouera ce match à 1310 mètres d'altitude. Donc faut pas mésestimer quand même la faculté des Mexicains à se transcender sur un match. Ensuite, on a l'Uruguay. L'Uruguay, on connaît l'Uruguay, hein, c'est une nation qui a souvent fait parler d'elle au début des années 80, avec des Enzo Francescoli pour pas le nommer, avec des joueurs comme Rubén Pérez, on s'en souvient, dans les années 70-80. C'est un jeu rugueux. C'est un jeu très rugueux. C'est pas forcément un jeu qui convient à l'équipe de France, parce que c'est une équipe qui produit du jeu, beaucoup de jeu. On a souvent eu des difficultés, Philippe, hein, contre l'Uruguay. On s'en souvient en 2002, lors de la Coupe du Monde en Corée du Sud. On a fait 0-0 contre cette équipe. Et c'est pas un bon souvenir, puisqu'on était sorti au premier tour.
On n'a jamais gagné en Coupe du Monde contre eux.
On n'a jamais gagné contre l'Uruguay en Coupe du Monde. Ouais, et ouais. M. Kinou a un drôle de souvenir contre l'Uruguay, parce que lors de la Coupe du Monde en 1986, il avait sorti un Uruguayen. C'était le match Uruguay-Écosse après 27 secondes de jeu. Mm-hmm. Voilà, carton rouge direct. L'Uruguay, attention, c'est une équipe très rugueuse. C'est une équipe non pas tricheuse, mais qui sait faire preuve de fourberie. Et
qui peut
pousser à la boucle. Et dans la provoque, il n'y a pas meilleur que les Uruguayens. Mm-hmm. Et puis il y a l'Afrique du Sud, pays organisateur, chez elle, bien sûr. Et on a une tendresse particulière. Et puis c'est peut-être un signe du destin. Pourquoi? Parce qu'en 1998, notre premier match de la Coupe du Monde, alors que l'équipe de France avait été très décriée, on s'en souvient, ça avait été contre l'équipe de l'Afrique du Sud. C'était à l'Olympique de Marseille, enfin au stade de Marseille, au Vélodrome. On avait gagné 3-0. Et peut-être que les gens s'en souviennent pas, mais il y a un petit jeune à l'époque qui avait 21 ans. Il avait marqué un but à la 92e minute. C'était son premier but en équipe de France. Vous voyez de qui je veux parler?
Oui, oui, oui.
Thierry Henry,
absolument. Donc c'était un signe du destin.
C'était un signe du destin.
Les tirages au sort rappellent pour beaucoup les tirages de 2002. Hein. Le Sénégal, l'Uruguay, c'était pas le Danemark. Ça paraissait pas un groupe très difficile. Et puis malheureusement, on sait ce qu'il en est advenu.
C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas forcément de tirage facile. Il serait dommage, et je crois que Raymond Domenech et tout son staff l'ont bien compris, de mésestimer estimer la qualité des adversaires de l'équipe de France à partir du 11 juin, puisque le premier match aura lieu le 11 juin, le jour du match inaugural. Alors ça ne sera pas contre l'Afrique du Sud qui jouera contre l'équipe du Mexique, ce sera contre l'Uruguay. Le premier match contre 20h30 le vendredi 11 juin. Mais faudra être vigilant, effectivement.
Alors très brièvement, hein, pour nos auditeurs, on va rappeler quand même les groupes. Donc dans le groupe A, donc France, Afrique du Sud, Uruguay, Mexique. Groupe B, Argentine, Nigeria, Corée du Sud, Grèce.
Et Argentine, Nigeria pourraient être les futurs adversaires de l'équipe de France en fonction du classement premier ou deuxième.
France, Argentine en 8e. Alors ensuite, donc dans le groupe C, Angleterre, Slovénie, États-Unis, Algérie. Groupe D, Allemagne, Ghana, Australie, Serbie. Groupe E, Pays-Bas, Cameroun, Danemark, Japon. Groupe F, Italie, Paraguay, Nouvelle-Zélande et Slovaquie. Groupe G, le groupe de la mort, Karl. Donc Brésil, Portugal, Côte d'Ivoire, Corée du Nord. Et groupe H, donc Espagne, Chili, Suisse, Honduras. Bon, c'est assez équilibré, sauf effectivement pour le groupe de la mort.
Oui, pour le groupe, G, avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est pour moi un des grands faire-valoir, alors non pas du football africain, on le sait depuis longtemps, mais du football mondial, parce qu'il y a quand même des sacrés joueurs ivoiriens, bien sûr, avec le fer de lance qui est Didier Drogba. Bon, voilà, on est un tout petit peu déçus que dans ce groupe, il y ait le Brésil, le Portugal.
Ah ouais,
je pense que ça va être compliqué pour nos amis portugais, qui ont eu des grosses difficultés pendant les éliminatoires. Je verrais bien le Brésil et la Côte d'Ivoire passer pour les huitièmes de finale.
Alors, vous êtes confiant pour ce mondial, pour l'équipe de France? Parce qu'on sait souvent que les barrages et une phase finale, c'est deux compétitions complètement différentes.
Ah bah, si on n'est pas confiant, faut pas y aller. Hein.
Oui,
pense qu'à partir du moment où on est qualifié pour la 19e Coupe du Monde de football, il faut surtout être vraiment, vraiment, vraiment derrière l'équipe de France, à fond derrière l'équipe de France, à fond derrière Raymond Domenech, à fond derrière Thierry Henry, derrière les Bleus. C'est important. Aujourd'hui, il n'y a pas à se demander si on joue bien, pas bien. On est en Coupe du Monde. C'est exceptionnel. On se rappelle, en demi-finale de la Coupe du Monde 2006, France-Espagne, il y a eu 22 millions de téléspectateurs. C'est un record historique pour les télés. On est tous derrière les Bleus. Il faut être tous derrière les Bleus. Bien sûr qu'on est confiant. Parce que ce premier tour de qualification, il est abordable. Et derrière, tout peut se passer.
En puissance.
Et derrière, tout peut se passer. On l'a vu en 2006.
Oui. Donc, on est dans une situation un peu similaire à 2006.
Similaire à 2006, Philippe. Vous avez complètement raison. Eu égard à la qualité des adversaires.
Bah, oui.
Similaire à 1998. Eu égard aux préparatifs qui avaient été un petit peu laborieux. Où Aimé Jacquet, à l'époque, avait été vraiment salement décrié.
Oui, on l'a vécu assez
comme l'est aujourd'hui Raymond Domenech, deux personnalités complètement différentes. Il n'en demeure pas moins que Raymond Domenech est le sélectionneur de l'équipe de France et qu'à ce titre-là, il a toute la légitimité d'un entraîneur, il ne faut pas l'oublier. Quand Raymond Domenech s'arrêtera, on dira quand même qu'il a été vice-champion du monde, ce qui est quand même pas rien, qu'il est arrivé en finale contre l'Italie, qu'il a fait un formidable parcours avec les espoirs. Il a un sacré palmarès, attention Raymond Domenech, hein, faut pas le...
On dit qu'il n'a aucun palmarès, qu'il arrive toujours au port des finales et qu'il gagne rien.
Et je pense qu'on est heureux en 2006 d'être arrivé en finale, et aujourd'hui on est très heureux d'être qualifié pour la Coupe du Monde. C'est pas Raymond Domenech qui joue. Hein.
Ouais. Alors pourquoi l'équipe de France comme ça n'arrive pas à s'exprimer avec ses talents individuels? Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe de France? C'est un courant qui passe pas entre Domenech ou bien les joueurs, ou il y a...
Encore une fois, Philippe, Raymond Domenech, il n'est pas sur le terrain.
Oui.
À un moment donné, l'alchimie...
mais c'est chef d'orchestre quand même.
Oui, mais il faut quand même que ça se passe. C'est sur le terrain que ça se passe. Faut quand même dire les choses. On n'a pas vu un très grand Thierry Henry contre l'équipe d'Irlande. Faut quand même être clair. Il a été aussi mauvais que ses camarades. À un moment donné, les efforts, ils doivent être faits pour tout le monde. Et Thierry Henry, c'est un joueur exceptionnel. C'est quelqu'un que j'apprécie.
Toujours décisif dans les grands moments.
Exactement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais là, pour le coup, les joueurs sont passés à côté. Donc effectivement, il faut faire certainement sa mue, il faut battre sa coupe par rapport à cela et essayer de faire remonter une mayonnaise qui a priori n'existe pas. Je pense que c'est bien. Les gens de l'équipe de France devraient venir ici là, faire un petit festifoot, se retrouver, parler de tout et de rien, et ça leur fait du bien.
C'est peut-être ça le problème. Et c'est peut-être là qu'il y a le problème de Domenech, le chef d'orchestre, peut-être qu'il n'arrive pas à parler.
Moi, je ne veux pas focaliser les envies de l'équipe de France sur Raymond Domenech, parce que c'est un raccourci qui est un peu trop facile. Si on ne voulait pas de Domenech, il ne fallait pas le mettre en place. très clairement. Voilà. C'est plus de la responsabilité des dirigeants du football français que du sélectionneur lui-même. Lui, il a demandé à être élu à la tête de l'équipe de France de football sur le terrain sportif. Ça a été le cas. Donc maintenant, qu'on le respecte et qu'il soit légitimé au titre où il doit l'être, Raymond Domenech. Après, sur les jeux, comme je dis, il n'y a plus Zidane. Hein. On a eu des grandes générations avec Zidane. On a eu des grandes générations avec Michel Platini. Tiens, on parle de deux joueurs qui étaient meneurs de jeu. Est-ce qu'on a un meneur de jeu aujourd'hui en équipe de France?
C'est peut-être là
la question.
Et puis, il y a quand même des jeunes qui vont faire leur première Coupe du Monde, pour beaucoup, qui vont devoir vivre ensemble pendant un mois. Ça aussi, c'est la difficulté.
Ouais, mais ça, c'est pas mal, Philippe. Parce que c'est toujours bien d'avoir un petit poil à gratter. Rappelez-vous, en 1986, le poil à gratter s'appelait Jean-Pierre Papin. Mm-hmm. C'était sa première Coupe du Monde à Jean-Pierre. Mm-hmm. Il est marqué contre le Canada, on s'en souvient. Ouais, ouais. Il faisait ses grands débuts en équipe de France. Ça fait du bien d'avoir un poil à gratter. Moi, je suis content qu'un Gignac puisse être là. C'est dommage qu'un Savidan, par exemple, n'ait pas pu être là parce que c'est aussi un joueur de vestiaire. Voilà. Mm-hmm. Il manque un petit peu cette fantaisie, ce côté surprenant, inattendu. C'est peut-être ça qui manque. Pour moi, il manque deux choses. Ce côté-là et un vrai meneur de jeu. Tant qu'on n'aura pas un vrai patron, un vrai meneur de jeu, ça sera peut-être Gourcuff demain. Oui. Je crois que Gourcuff, il faut qu'il soit encore plus intégré, plus apprécié aussi de ses partenaires qui ne jouent pas suffisamment pour lui, à mon sens. Voilà. Là, on aura une vraie génération.
Il a du mal à trouver sa place dans cette équipe de France, sur le terrain, le positionnement.
Exactement.
C'est ça le problème.
Il n'est pas vraiment positionné en numéro 10 comme il l'est à Bordeaux. Il est plutôt sur un côté. Je ne sais pas si ça lui convient vraiment.
Mm-hmm. Alors, la main de Thierry Henry, en bon journaliste que vous êtes, est-ce qu'on n'en a pas beaucoup trop parlé? Est-ce qu'on n'a pas trop focalisé alors que finalement, c'est la prestation d'ensemble qui est à retenir de cette équipe de France? Et j'allais dire, c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais la main, c'est qu'un détail.
Oui, c'est vrai, c'est pas une main heureuse, mais c'est un fait de jeu, c'est un réflexe, et on a tout focalisé dessus. Je prépare un ouvrage justement là-dessus. J'aurais simplement aimé, moi, Philippe, quand on voit chez Given le gardien irlandais qui court derrière l'arbitre avec tous ses partenaires, où manifestement l'arbitre sent qu'il s'est passé quelque chose, et que monsieur l'arbitre aille voir Thierry Henry en lui disant: Monsieur Henry, vous avez fait main ou pas main? Et là, ça peut changer. Ouais. Parce que si Thierry Henry dit: non, j'ai pas fait main.
Ouais.
Là, ça peut être dramatique pour lui. Et s'il dit il fait main, il prend un avertissement, il y a un coup franc, on n'en parle plus. Et on passe ou on passe pas, mais on n'en parle plus. Aujourd'hui, on est heureux que l'équipe de France, et c'est important, c'est capital pour le pays que l'équipe de France soit en Coupe du Monde. Parce qu'on voit bien, la ferveur que ça peut entraîner. Et on est très malheureux parce qu'on ne mérite pas sur ce match-là d'obtenir la qualification de la manière dont on l'a obtenu. Il n'y avait pas un Français dans la rue après ce match-là. Alors que c'est une libération. On se souvient des matchs contre la Bulgarie en 1978, contre les Pays-Bas en 1977 pour la Bulgarie. Ça avait été exceptionnel, la ferveur. Là, les seuls qu'on a retrouvés dans les rues, ce sont nos amis algériens qui étaient fous de joie que leur équipe se soit qualifiée pour la Coupe du Monde. Et on est très heureux pour nos amis de l'Algérie. Mais c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas eu la fête pour l'équipe de France parce que nous, Français, nous supporters, on aurait aimé se retrouver aussi dans la rue pour fêter nos héros.
En tout cas, l'Irlande a été un peuple fair-play, fair-play. Il y aurait eu d'autres pays, ce serait peut-être moins bien passé, Carl.
Ah ben c'est sûr que sur ce match-là, ça n'aurait pas pu être le cas, mais vous avez un France-Algérie, j'ai peur, quoi. Parce qu'effectivement, c'est injuste, c'est malheureux. Et on retourne le problème. Et si, en Irlande, un Irlandais fait une main et disqualifie l'équipe de France pour la compétition. Ouais. Ça aurait été dramatique. Mmh. Mais j'insiste sur le fait que, là, pour le coup, je trouve que l'Algérie va participer à cette Coupe du Monde. Ça c'était plus produit depuis 1986. Je trouve que c'est une vraie belle nouvelle pour le football mondial.
Mmh. On aurait dû avoir un peu de retenue dans la joie vis-à-vis de Jean-Pierre Escalette ou de Raymond Domenech. Dans la victoire, il fallait un peu plus de retenue.
Je pense que quand on est en communication de crise, la première chose à mettre en exergue, c'est la dimension humaine. Ouais. Donc là, effectivement, on doit non pas ne pas faire la fête, parce qu'on est qualifié, mais on doit effectivement avoir une pensée, souvent on dit pour un blessé, pour un deuil quand il y a un dramatique accident. Là, on doit avoir une pensée pour nos amis irlandais et leur dire d'abord, un, plate d'excuses, deux, on est désolé, mais trois, on est qualifié et voilà. Donc, mais derrière, les arguments fallacieux de dire on va refaire le match, etc., dont on sait très bien que c'est impossible. Donc ça, c'est un petit raccourci qui ne me plaît pas du tout.
Oui, on n'a jamais refait des matchs. Hein. Il y a 50 mains par saison. Donc...
Les seuls matchs qu'on puisse refaire, c'est la...
Juliette, allez, on en a parlé hors antenne de cette équipe de France, de Thierry Henry.
Oui, alors pour l'équipe de France, je pense pas que le tirage soit aussi favorable que ça, effectivement. Hein. Il ne faut pas qu'on s'appuie
pas
là-dessus en disant, toute confiance. Je pense que là, il faudra jouer, il faudra faire vraiment preuve de d'une équipe capable de mener ce groupe. Par contre, il y a quelque chose qui me gêne dans le groupe du Brésil où c'est qualifié de groupe de la mort. ce mot me gêne beaucoup. Non, c'est une. Oui, oui, mais je pense qu'il faudrait l'enlever et lui donner un autre nom. Je sais pas, le groupe des meilleurs, des huiles, enfin tout ce que vous voulez. Mais on sait très bien que pendant ces matchs, des fois, il y a des accidents. Il y a des problèmes, il y a des jeunes comme ça. On a vu avec ce jeune qui est tombé sur le terrain, qui a fait une crise cardiaque et qu'on a perdu comme ça. Ce mot mort, ça me gêne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il faudrait qu'on trouve un autre mot au début de la Coupe du Monde pour parler de ce groupe. Voilà.
Karl, ce sont des expressions. Des fois, on y va un peu trop fort.
Ah ben, je partage complètement l'avis de la présidente, parce que c'est pas des mots à employer. Ouais. Hein. mais c'est le groupe de la Stris. C'est le groupe le groupe des champions, c'est le groupe des héros, voilà, le groupe des huiles, c'est un joli mot ça.
Ouais.
Bon voilà, après c'est vrai que le sport sauf la mort, le foot encore plus. Maintenant c'est vrai que c'est le groupe de
c'est le groupe des champions,
c'est le groupe le plus relevé.
Voilà.
Exactement, tout à fait.
C'est comme nous, des fois on dit le match de l'année, Marseille Paris Saint-Germain, 9e contre le 10e.
Bah, c'est pas le mot, le classico qui a été particulièrement mauvais entre Marseille et Paris Saint-Germain récemment.
Alors justement, la Coupe du Monde, ça va être un événement fabuleux pour le continent africain.
Ah ben c'est la première fois qu'il y a une Coupe du Monde en Afrique, c'est tout simplement exceptionnel. Et puis je crois que les Africains ont mis un pied d'honneur, un point d'honneur à l'organiser parfaitement. Je pense que je participerai à cette Coupe du Monde dans l'organisation et en termes de l'image et de la production. Il y a simplement un seul doute actuellement, c'est tout ce qui concerne le domaine de la sécurité. Il y a pas mal d'interrogations, donc il faut faire appel vraiment au plaisir, à l'épanouissement. C'est un formidable rassemblement de la jeunesse, hein, c'est une formidable ferveur populaire. Il ne faudrait pas qu'il y ait de soucis qui soient entachés par des problèmes d'insécurité plutôt au travers de cette compétition. Pour le reste, ça va être super bien organisé. On sera en hiver, faut pas l'oublier, en Afrique du Sud, donc ça peut jouer aussi, faut le rappeler sur les organismes. On sera en plein hiver, au mois de juin prochain là-bas. Et moi j'ai vraiment hâte d'y être et vraiment hâte d'être au vendredi 11 juin pour assister au premier match de l'équipe de France. Et puis juste une chose, il faut savoir, il ne faut pas mésestimer nos amis sud-africains, parce que depuis 8 mois, ils vivent ensemble, ils dorment ensemble, c'est vraiment, c'est le love story africain actuellement pour faire une grande Coupe du Monde.
Eh bien, si vous êtes là-bas, on vous appellera.
Avec plaisir.
Carl, voilà. Alors justement, donc, on l'a dit, le foot, les fédérateurs, il n'y a que le sport encore qui peut nous donner ça.
C'est vrai que je constate que au lendemain du titre de champion du monde des Français, au lendemain du titre de champion d'Europe des Français en 2000, mais quelle ferveur dans les rues, c'est exceptionnel. Moi, mes parents me disaient qu'ils n'avaient pas connu ça depuis la libération.
Absolument.
C'est quelque chose d'exceptionnel.
J'ai beaucoup
d'émotions comme ça qui me traversent l'esprit. J'ai eu la chance d'assister à un Liverpool-Paris Saint-Germain à l'époque où le PSG avait gagné au match aller 3-0 exactement, à Anfield Road. Mais quelle émotion de se retrouver autour, j'en ai encore des frissons, autour des supporters Anfield Road. C'est vrai que c'est une formidable émotion, le football. Il y a le football, le sport en général, et puis je trouve aussi que la musique nous donne vraiment des très très belles émotions comme cela. Vous allez voir des concerts... Vous allez voir Paul Naref l'an passé, des concerts de gens qu'on a formidablement appréciés dans notre pays. Voilà, ça vous donne aussi ces émotions-là. C'est vrai que c'est des formidables émotions et le football est révélateur de cela parce que c'est le sport le plus populaire. On a fait six foot aujourd'hui, les gamins jouent au foot. On va sortir dans un quartier ici de Morpa, à côté du village au loisir. Les gens jouent au foot. Le football, c'est la vie.
Mm-hmm. Économiquement, ça aurait été, je ne vais pas dire un drame, mais naturellement, il y aurait eu un gros manque à gagner si on n'avait pas été au Mondial, parce que ça aussi, c'est important. Il y a toutes les retombées économiques après une partie.
Ah, très clairement, là, c'est très clairement. Et je pense que d'abord, les sponsors soufflent, les entreprises soufflent. Pourquoi ? Parce que on prend un exemple simplement des télévisions. Combien de télé, quel merchandising, quelle campagne de promotion ne va peut-être pas être mise en place avant la Coupe du Monde pour s'acheter sa télé spéciale Coupe du Monde. Vous vous rendez compte pour les entreprises, c'est tout simplement exceptionnel. Le merchandising, les équipementiers, mais vont s'en donner à cœur joie au lendemain de la victoire. De la victoire des Bleus en 1998, ce sont des millions de maillots à l'effigie de Zidane qui avaient été vendus par Adidas, par exemple. Donc c'est un impact économique fort. Et le révélateur, pour moi, c'est plus la santé morale des Français.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a le moral aussi.
La santé morale des Français, après...
Qui sont joyeux, qui ont envie d'entreprendre.
Exactement. Et puis ça donne du bonheur. Voilà, ça les neurones prennent un coup de jeûne. Là, c'est une cure de jouvence pour tout le monde.
Voilà. Donc en tout cas, ça sera la grosse fête en un mois. Il y a d'autres équipes qu'il va falloir surveiller. L'Argentine, ça sera l'équipe favorite. Le Brésil, l'Espagne.
Je pense que l'Espagne. Ouais. L'Espagne, il va falloir être très très prudent et très méfiant concernant l'Espagne. C'est un formidable terrain de sport. Hein. L'équipe de football est championne d'Europe. Nadal est champion du monde de tennis. Les basketteurs sont champions du monde.
Davis ce week-end.
Les volleyeurs sont champions du monde. Les tennismans viennent de remporter la Coupe Davis. Ça, c'est formidable. Il faudra un jour se pencher sur la réussite du sport espagnol et vous verrez qu'en Espagne, quand on parle système éducatif, on commence par le sport. Parce que le sport, on le disait tout à l'heure, Philippe, c'est une école de la vie. Et il y a école et il y a aussi vie. On oublie en France que le sport, c'est pas simplement après les cours, c'est pas simplement quand on a le temps, ça fait partie du cursus.
Alors justement, on est devenu un pays un peu plus sportif qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, Karl, où c'est vraiment sportif, j'allais dire, occasionnel.
On n'est pas plus devenu un sport sportif qu'il y a une dizaine d'années parce qu'on n'a pas compris encore une fois que le sport, au lieu d'être attaché à la santé, ferait bien d'être attaché à l'éducation. Et pour moi, aujourd'hui, on doit permettre à nos jeunes qui sont en primaire à la maternelle, mais d'apprendre à jouer au golf, au basket, faire du roller, faire du volley. Il faut l'intégrer et permettre à ces jeunes de faire 2 heures de sport. Pourquoi pas tout le matin, commencer plus tôt ou les libérer plus tôt l'après-midi pour qu'ils aillent faire du sport ou du violon ou du trampoline ou du xylophone, je sais pas, mais qu'on leur donne la possibilité, de faire du sport et du loisir. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. Ça fasse partie intégrante. Il n'y a pas que l'école pure et traditionnelle. Il la faut, bien sûr. Un formidable pays de structures scolaires et universitaires. Mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'Espagne est un exemple très significatif, péremptoire à ce titre-là.
Oui, il y a un système éducatif différent du nôtre.
C'est-à-dire qu'en Espagne, vous vous levez plus tôt pour aller à l'école midi. Et ensuite, l'après-midi est consacré au sport. J'ai eu la chance d'aller à la Coupe du Monde en 1994 aux États-Unis. J'ai été stupéfait de voir que tous les jours, entre 8h et 10h du matin, les gamins qui étaient scolarisés en primaire et en scolaire faisaient du sport. Alors eux apprenaient le golf comme nous on joue au football, mais ils faisaient du cricket le surlendemain, du baseball le surlendemain. Voilà, pour moi ça fait partie. Et quand on dit le sport est une école de la vie, faut pas simplement le dire quand ça rend les uns et les autres.
Je voudrais revenir un peu à la main de Thierry Henry. Les déclarations des politiques, vous en pensez quoi? Parce que est-ce qu'il ne fallait pas rester à sa place? On en a trop parlé, on a vu des...
Ouais, je pense que de temps en temps, il faut savoir se taire.
Voilà.
Coluche disait, quand on n'a rien à dire, il faut fermer sa gueule. Mais je pense que c'est effectivement le cas. Je pense que lorsqu'on est ministre des Sports, il faut protéger ces hommes. Donc on doit protéger Thierry Henry comme on doit protéger Raymond Domenech, comme on doit protéger l'équipe de France. En revanche, il est du devoir du président de la Fédération française de football et aussi de l'organisme tutelle, peut-être du secrétariat au sport, de faire une petite réunion entre quatre yeux, comme on dit, et de se dire les choses, de laver son linge sale en famille. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'on a lavé son linge sale sur la place. Ça, c'est plus compliqué.
On n'a pas le sentiment que Thierry Henry a été protégé. On n'a pas entendu M. Escalette.
Est-ce que Thierry Henry doit être protégé? Après, il faut quand même dire les choses. Pour le coup, il a triché. Il l'a dit. Et en plus, il n'a pas été bon. Donc, est-ce qu'il faut qu'il soit surprotégé? Pour le coup, il faut être très lucide. Il faut dire les choses. Voilà. On n'est pas qualifié grâce à Thierry Henry. L'équipe de France, le premier doit pas être contre Thierry Henry. Maintenant, il faut dire que Thierry Henry, il a triché. Ouais, c'est un fait, il l'a dit. Il a fait main. Et puis, en plus, il n'a pas été bon. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de surprotéger les sportifs, quoi.
Très bien. Oui, puis il y aurait la série des tirs au but, de toute façon. Donc on s'en fait passer. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci Karl d'avoir été, j'allais dire, notre invité exceptionnel.
Non, il n'y a pas d'exception. Mais un grand merci d'abord de m'avoir invité. Puis je suis très heureux d'avoir découvert les installations de Festifoot ici à Morpa parce que c'est un endroit unique. Voilà.
À très bientôt.
À très bientôt.
Merci d'être venu. Yann, ça va être le mot de la fin là, pour celui qui nous a accueillis à Festifoot.
Merci Philippe d'être venu faire cette émission en direct avec Karl Olive et Juliette. C'est un plaisir. Vous revenez quand vous voulez. On a déjà programmé d'autres dates de toute façon.
On reviendra.
Et puis Festifoot à Morpa, festifoot.com sur internet et 01 30 50 50 00. N'hésitez pas à venir découvrir ce centre de foot en salle, nouvelle génération qui, à mon avis, vous fera le plus grand bien.
Très bien, merci. On va envoyer une pause musicale. Ensuite, le générique de fin de Tribune Foot. Et puis la semaine prochaine, on retrouvera nos studios. Tiens, on parlera boxe avec Antoine Farrugia et Dominique Nato dans Tribune Sport 9h-10h. Et Tribune Foot, la semaine prochaine, on entrera au cœur des amis du Paris Saint-Germain. Voilà, bonne journée, bon dimanche. On vous laisse avec Lionel pour Radio Village. À la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Why, why
Bonjour RVE.